l'industrie. Et donc, nous allons lire Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 58. Ça me fera fâcher, mais si vous désirez, je suis en opinion, je vous laisse le temps de lire le texte. Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 58. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te donne, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Fin de notre lecture. Je ne vais pas prendre le temps de détailler tout ce qui est écrit dans ce texte. Je vais me concentrer sur la réponse à la question. Comment réagir face à la violence? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte et j'aurais beaucoup de plaisir à tout vous dire, mais une demi-heure, ce n'est pas suffisant. Donc, comment réagir face à la violence? Ça va vous surprendre le premier point. J'ose le dire, premièrement, faire appel à la justice. Ah bon? Et où tu trouves ça dans le texte? Allons-y. La réponse de Jésus est surprenante. Elle ne fait pas envie quand on entend. Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Pour nous, c'est de la folie d'entendre une telle phrase. C'est se montrer en faible. C'est de la lâcheté. C'est de la folie. Dans notre nature, nous allons vouloir de toutes nos forces répondre par la vengeance à quelqu'un qui nous frappe. On aimerait plutôt entendre si quelqu'un te gifle à la joue droite. Donne-lui un coup de poing. Bon, en tout cas, on veut se défendre, n'est-ce pas? Mais ce que Jésus nous dit, si on reste juste à ce qu'il dit là, c'est totalement contraire. Dans cette phrase, il n'y a même pas de résistance, il n'y a même pas de vengeance, il n'y a même pas de défense. Il n'y a rien. On me gifle juste dans l'autre, c'est tout. Mais comme d'habitude, le sens d'une phrase peut être mal compris si nous la prenons de manière isolée. Si on prend juste le texte comme cela, juste ce petit verset, on va déformer en fait ce que Jésus veut vraiment dire. Nous avons besoin de bien comprendre le contexte et l'entier de ce que Jésus est en train de dire. Et combien de fois on peut faire peut-être ces bêtises, hein, n'est-ce pas? On voit un bon texte, on dit tiens, ça veut dire ça. Faisons attention. Il y a toujours un sens et il prend le temps de bien comprendre ce qu'il dit. Donc, quel est le sens de ce que Jésus est en train de dire? Voilà la question. Et moi, je crois que la meilleure manière de comprendre ce que Jésus dit est de comprendre déjà ce qu'il veut dire par son introduction, œil pour œil, dent pour dent. Est-il en train de rejeter cela, œil pour œil, dent pour dent? Testament est la première partie de la Bible avant la venue de Jésus-Christ. Et je cite Lévitique, chapitre 19, verset 19 à 21, qui dit ceci. Si un homme inflige une blessure à son prochain, on agira à son égard comme il agit lui-même. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Hey, c'est là. On lui infligera de plein la même blessure qu'il a portée à son prochain. Donc, celui qui fait périr un animal le remplacera à celui qui tue un homme sera puni de mort. J'ai bien dit la phrase. Donc, celui qui fait périr un animal le remplacera. Et celui qui tue un homme sera puni de mort. Vous remarquerez, en tout cas quand on lit le contexte de l'Ancien Testament, que cette formule n'apparaît, en tout cas apparaît dans l'Ancien Testament, dans un contexte bien précis, d'une procédure judiciaire et définit la peine encourue par le coupable. Cette recommandation concernait les juges d'Israël. Pas tout le monde. Non. Les juges. Donc, elle exprime la loi du talion, qui est un principe d'une rétribution exacte. Et cette loi interdisait également qu'on rende la justice à titre privé, en recourant à la vengeance. On le voit dans le Lévitique, toujours 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune. On s'en va jusque là, jusque dans le cœur, dans les pensées. Tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc on ne joue pas. Les pharisiens, les responsables religieux de l'époque, ont utilisé ce principe, un pour un, dent pour dent, pour justifier la vengeance personnelle. Ils en profitaient. Et d'autres encore, pas que. Mais le texte que nous venons de citer contredit totalement cette compréhension. Un pour un, dent pour dent, ne peut être invoqué pour justifier la vengeance ou l'animosité personnelle. Donc Dieu ne nous donne pas le droit de nous venger. Ce serait mal comprendre le texte. Mais cela n'enlève pas la justice qui doit être appliquée. Ceux qui ont le droit et le devoir de l'appliquer, ce sont les autorités, on parle de magistrats, les juges, etc. Face à la violence, nous devons aussi nous protéger. Parce que quand on est face à ce texte, on se dit, bon, quelqu'un me gifle, donc je dois attendre. Mais avant d'arriver sur cela, et pour un non-pendant, sous-entend derrière qu'il y a des autorités, des personnes qui ont ce droit, et que nous, notre responsabilité, c'est de faire appel à la justice. Et aussi nous protéger. Luc, chapitre 4, verset 28 à 30, regardez ce que Jésus a fait lui-même. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère, parce qu'ils entendent Jésus, quand plus il parle, plus il est en train de se montrer comme Dieu. Et là, ils se disent, non, mais c'est pas possible que lui puisse parler comme s'il était Dieu. Il se prend pour qui, celui-là? Et donc, ils se mettent en colère, tous ces gens qui sont dans la synagogue. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville, jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. C'est le début du ministère de Jésus, les amis. Le début. Et regardez le verset 30. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Bon, c'est un peu gentil hein, quand on voit la phrase, mais on sait très bien ce que ça veut dire. Il fuit. Hein. Ah bon, mais Jésus, pourquoi t'as pas tendu l'autre joue? Vous voyez, déjà, on est déjà sur un texte qui va sur une autre direction. Et là, qui nous montre qu'on a le droit de se protéger. Il nous faut nous protéger. Cela fait partie de quelque chose de normal et important. Donc, voici une situation où Jésus s'est protégé devant un moment très violent. Il n'est pas resté, sinon c'était la mort assurée en plein début de son ministère. Quand nous sommes face à la violence, nous devons faire appel aux autorités pour faire justice. Donc Jésus ici ne rejette pas œil pour œil, dent pour dent quand il le dit. C'est juste que le sens est mal compris. Cette loi ne nous appartient pas. Seuls les juges ou magistrats ont la fonction et l'autorité de rendre justice ou de réclamer l'application de la loi. Donc notre responsabilité.
C'est l'insulte par excellence. C'est le mépris au plus haut degré. Le contexte aussi peut nous amener à comprendre que nous sommes face, en tout cas par rapport aux gens qui font cela, des adversaires hostiles à la foi. Donc on peut penser à nos frères persécutés aussi là-dedans. Comment comprendre tant d'autres jours dans une situation aussi extrême? Je ne pense pas que ce texte doit être appliqué de manière littérale, et ça, déjà jusqu'à ici, on arrivera à le comprendre. En plus, l'appliquer ainsi pourrait, au contraire, nous attirer des ennuis. Agir ainsi peut provoquer de la colère à celui qui est en face de nous. Donc, on ne veut pas provoquer plus de violence, et donc évitons de prendre ce texte de manière littérale. L'illustration est choque, mais Jésus le fait réfléchir, en fait. Et là, le but de Jésus. Comme nous l'avons vu avant, Jésus est pour la justice. Donc, quand Jésus dit de tendre notre joug, il n'est pas en train de dire de ne pas se protéger. Nous pouvons commencer à comprendre ce que Jésus dit avec ces trois mots. Ne résistez pas. Tendre l'autre joug, en fait, écoutez bien ceci. J'ai déjà dit, mais je vais le dire de plusieurs manières. C'est renoncer à se venger, renoncer à la violence, renoncer à l'amertume. C'est refuser de résister, de tenir tête, d'entretenir le sentiment de colère. C'est ne pas rendre le mal pour le mal. C'est chasser nos ressentiments avant qu'ils ne nous envahissent et nous dominent. Ça vous rappelle quelque chose derrière Abel? Je lui dis à attention, le péché est à ta porte. Et il dit quoi? Domine sur lui. Domine sur lui. Sinon, c'est lui qui va te dominer. Quand nos sentiments et les ressentiments, les choses qui restent, la colère qui reste, ça peut nous amener à des paroles ou des gestes violents. Et l'image va encore plus loin. Jésus dit de tendre l'autre joue, pas juste de s'arrêter devant celui qui nous fait du mal, peut-être de courir parce qu'on fuit. Jésus ne montre pas une attitude passive ici, devant celui qui nous fait violence, mais une attitude active, tendre l'autre joue. Et en fait, c'est la suite du texte qui l'explique. Aimer nos ennemis, et c'est notre troisième point. Tendre l'autre joue, c'est dire non à la vengeance, pour dire oui à l'amour. La Bible l'affirme à plusieurs reprises, c'est étonnant. Regardez ça, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Un autre texte encore. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Autre texte. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelé afin de recevoir vous-même la bénédiction. C'est un texte fort. Dans le texte que nous avons lu, Jésus dit d'aimer nos ennemis. C'est de la folie à vue humaine. Mais nous devons continuer à aimer nos ennemis. Continuer à aimer devant l'opposition. Continuer à aimer devant la violence. À l'aide des autres évangiles, on voit que Jésus dit de faire des choses concrètes. Ce n'est pas juste aimer de manière générale. Jésus nous laisse des indices. Aimer nos ennemis, c'est continuer à les saluer. La première chose qu'on ferait si quelqu'un nous fait violence, c'est qu'on ne salue plus et qu'on va, si on est sur un trottoir, on est sur l'autre. Mais surprenant, Jésus ose dire, parle de ce terme saluer. Aimer nos ennemis, c'est continuer à leur faire du bien. Surprenant aussi, on trouve un texte aussi dans l'Ancien Testament qui le dit. Cela signifie acte concret de serviabilité dans les choses ordinaires de la vie. Et plus loin encore, aimer nos ennemis, c'est continuer à prier pour eux. Prier pour nos ennemis est l'une des formes les plus profondes de l'amour. Car cela signifie que nous avons vraiment envie que quelque chose de bien leur arrive. Nous pourrions faire de belles choses pour notre ennemi, mais
nous aide en fait à les aimer. Les différentes choses que j'ai énoncées ici, que Jésus énonce, ne veut pas dire que c'est possible. Il y a des situations où ce n'est plus possible de saluer, de faire du bien. Mais il y a une chose qu'on pourra toujours faire, c'est prier. Prier pour eux. Nous pouvons prier pour qu'ils arrêtent leur méchanceté envers nous ou envers d'autres personnes, ou pour que Dieu nous aide à les supporter. Nous pouvons aussi prier pour qu'ils donnent la vie à Dieu, qu'ils le rencontrent. Rien de mieux pour eux que de rencontrer Dieu. Et s'ils connaissent déjà Dieu, nous pouvons continuer aussi à prier pour eux, pour que Dieu agisse, pour qu'ils changent. La prière que Jésus a à l'esprit ici est toujours pour le bien, jamais pour le mal. Jésus ne nous appelle pas seulement à faire de bonnes choses pour nos ennemis, en les saluant, en les aidant quand ils sont dans le besoin, mais il nous appelle aussi à vouloir ce qu'il y a de meilleur pour eux, et donc à exprimer ce besoin dans la prière. Le cœur devrait vouloir qu'ils deviennent enfants de Dieu, etc. Il y a vraiment tout ce qu'on pourrait souhaiter de bonheur. Aimer nos ennemis en les saluant, en les aidant et en priant pour eux, sans hypocrisie. Voilà des choses concrètes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider, qui aide beaucoup. C'est quand nous avons un ennemi, c'est en priant pour lui, Dieu change nos cœurs. Retenez cela. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Mais priez pour quelqu'un avec qui vous avez des difficultés, de relations. En vous, l'amertume par l'amour. Prêt, nous sommes prêts à pardonner. Mais ça prend du temps, suivant la situation. Alors, comment réagir face à la violence? Premièrement, faire appel à la justice. Deuxièmement, renoncer à la vengeance. Et enfin, aimer nos ennemis. Face à ce que Jésus nous demande de faire devant la violence, je comprends que cela peut nous paraître fou et impossible à vivre, au point que Jésus met encore la barre plus haute, puisqu'il dit « Soyez comme mon Père, avec votre Père, Dieu, qui est parfait. Soyez parfait comme lui-même est parfait. » Ah ouais, Jésus, tu sais ce que tu es en train de dire là, parce que déjà, tout ce que tu dis avant, c'est balèze, mais en plus, maintenant, tu mets la barre encore plus haute, tu veux qu'on soit parfait. Et jamais on le sera. Mais Jésus ose le dire. Nous amener à quelque chose d'important. Nous ne pouvons vivre la vie chrétienne, la vie avec Dieu, sans œuvre de Dieu. La vie chrétienne, je le redis, j'ai souvent dit ici, la vie chrétienne est un miracle. Ce n'est pas moi qui fais plein d'efforts tout seul dans mon coin et j'espère faire du bien à mon prochain. C'est une œuvre de l'esprit. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Bien sûr, mes efforts sont présents. Il y a beaucoup de prières, beaucoup de demandes pour que l'action de Dieu soit manifeste dans ma vie. Et quand je peux faire quelque chose de bien, à la fin, je dis à Dieu soit la gloire. C'est lui qui a fait ça, pas moi. Devant un tel texte, nous devons admettre qu'il est impossible d'aimer nos ennemis et de faire ce que Jésus nous demande. Sans l'œuvre du Saint-Esprit. Seul Dieu peut nous rendre capables de vivre cela. Et regardons un instant à l'exemple de Jésus face à la violence. C'est impressionnant. Vous savez ce que Jésus a subi pour chacun de nous. Partout, il est observé. Partout, Jésus est observé, même espionné. On lui tend des pièges, des ordres sont lancés. Quiconque sait où il se trouve doit le dénoncer. Les pharisiens cherchent à s'emparer de lui. Ça, c'est du non-stop. Quand on regarde le texte, on se dit, ah, c'était à un moment donné du ministère de Jésus. Non, c'était du non-stop. Jésus doit vivre dans cette atmosphère saturée de menaces de mort. Pendant 3 ans, Jésus sait qu'on le menace et les gens sont après lui. Pourquoi on le cherche? Certainement que Jésus ne restait pas toujours au même endroit, n'est-ce pas?
seule sa foi dans la protection de son Père lui permet de ne pas être écrasé. Jésus a connu insulte, rejet, vie, proche de la croix, crachat, flagellation, avec un foie garni de pointes acérées, couronne d'épines, la pénible montée du calvaire, avec sur le dos cette croix, traverse latérale de la croix, une lourde poutre de quelque 2,50 m. Sous les coups des soldats et de la foule, de ces hommes et de ces femmes auxquels il n'a fait que du bien. Puis les clous dans la chair vive, ses mains, ses pieds, une lente agonie sous un soleil brûlant. Et j'évite plein d'autres détails. Devant cette terrible violence, Ésaïe, un prophète, nous rapporte ces paroles des siècles avant. Des paroles très touchantes. Ésaïe 53, verset 7. On l'a frappé et il s'est humilié. Regardez ce qu'il écrit. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ce qui la tombe. Il n'a pas dit un mot. Et à l'époque, quand on mettait des répétitions, c'était pour insister sur quelque chose. Il y a une insistance sur le fait que Jésus ne disait pas un mot. Oh, bien sûr qu'il y a des fois où il parlait. Mais pour mettre devant les autres la justice, jamais dans un sens négatif ou de vengeance. Et voici le but de Jésus dans ce texte, ce même texte. En vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensons que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Vous savez quoi? La Bible dit que nous sommes comme les ennemis de Dieu. Et pourquoi? Parce que nous avons commis plusieurs choses qui créent un mur entre nous et Dieu. Péché, désobéissance à la volonté de Dieu, égoïsme, orgueil, indifférence envers Dieu, notre sécurité, notre bonheur, placé ailleurs qu'en lui, vivre en lui tournant le dos comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'était pas notre créateur. Et puis toutes nos impuretés, dans nos motivations, nos pensées, nos actes, nos dépendances, plein d'autres choses encore. Tout cela nous amène dans une direction mauvaise, une sorte de frustration, de souffrance terrible. Mais Dieu que nous rejetons par notre désir d'indépendance n'a jamais cessé de nous aimer. Il a vécu les violences les plus pires. Il a choisi de faire une chose folle, une chose vraiment folle, car il nous aime tellement. Il choisit de venir sur terre par Jésus-Christ. Il devient homme comme nous, avec tout ce que cela comporte. Il a connu la faiblesse, la souffrance humaine. Il vient dans un but, rétablir notre relation avec Dieu pour toujours, pour notre bonheur éternel. Et ce qu'il fait, les 100 fois, il meurt sur une croix. Mais sa mort a une signification tellement importante. Il prend sur lui donc péché, désobéissance à sa volonté, égoïsme, orgueil, et il meurt pour nous offrir son pardon. Et comme je l'ai dit, rétablir notre relation avec Dieu. Quel immense cadeau Dieu nous a fait. sentez concerné par ce qui vient d'être dit. Vous avez du mal à sortir d'une colère à cause d'une violence subie. Peut-être que vous vivez une souffrance terrible due à une violence vécue dans votre enfance qui vous empêche de vivre, qui vous empêche de croire à l'avenir. Cela vous vient tout le temps à l'esprit, ces gestes de violence que vous avez vécus, des rêves, des cauchemars, des choses qui vous saisissent à n'importe quel moment. Peut-être que vous vivez une souffrance terrible due à quelque chose qui vous maintient encore aujourd'hui dans la difficulté. Peut-être que l'amertume vous ronge dans une situation. Et j'aimerais vous dire, Dieu est celui qui libère, qui guérit et qui sauve. Et Dieu veut agir dans votre vie. Dieu invite plusieurs ce matin. Prendre aussi une décision. Et pour certains, la décision que vous devez prendre est de faire appel à la justice. Faire appel à la justice dans une situation difficile. Il est arrivé que des gens n'avaient pas fait appel à la justice à cause d'une situation quelconque parce qu'ils se disent « Je suis chrétien, donc c'est comme ça. » Très grave. Si tu sais être dans une situation où tu dois faire appel à la justice, prends cette décision de le faire. Avec l'aide de Dieu, sans esprit de vengeance. Et si tu as besoin d'aide, nous pourrons t'aider. Mais fais justice. Enfin, fais appel à la justice. Pour d'autres, la décision à prendre est de renoncer à la vengeance, à la violence, à l'amertume. Refuser de rendre le mal pour le mal. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre cette décision ce matin, à renoncer à toute amertume. Cela, je pense à une personne, deux personnes. Prends cette décision ce matin. Pour d'autres, la décision à prendre est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, qui sont ennemis. Peut-être n'arrives-tu pas à saluer ou à faire du bien, mais prends au moins cette décision ce matin de commencer par prier pour celui ou celle qui te veut du mal. Je vous invite maintenant à prendre cette décision. Si vous savez qu'il y a une chose que vous devez régler devant Dieu, il y a un temps pour d'autres, c'est tout simplement une souffrance du passé que vous voulez donner à Dieu. Prenons le temps dans le silence là pour vivre ce moment. Et ensuite je prierai. Silence, j'aimerais juste dire pour ceux qui aimeraient venir à Dieu et recevoir son pardon, la vie éternelle, peut-être tu entends tout cela et tu as envie de connaître Dieu et t'approcher de lui. Et donc, je t'invite maintenant à faire un pas vers Dieu par la prière. Et pour te dire, je vais tout simplement prier une prière que tu peux répéter avec moi pour tout simplement faire ce premier pas vers Dieu. Si l'un ou l'autre aimerait se tourner vers Dieu et pour la première fois et pouvoir faire les premiers pas, moi je t'invite à le faire maintenant en répétant la prière que je vais prier. Dieu, j'aimerais mieux te connaître. Je viens à toi maintenant. Je ne comprends pas tout. Mais je veux te suivre. Pardon pour mes fautes. Pardon pour toutes mes désobéissances. méfions-nous pour que nous sachions faire appel à la justice quand cela se présente. Que nous sachions aussi renoncer à la vengeance et aimer à comme toi qui nous aimes. Donne-moi d'agir dans ceux qui souffrent de choses douloureuses du passé. Guéris les cœurs blessés. Donne-moi ta paix. Et je te demande aussi enfin que ceux qui ont dit oui à ton amour chants. Cherche le message que vous aimeriez aller plus loin dans votre démarche. Sachez que vous pouvez le faire. J'aimerais prier pour vous. Donc, je pourrais prendre votre sujet de prière ou tout simplement se voir dans la semaine. Mais ne restez pas seul dans votre démarche, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, poursuivez votre démarche pour que Dieu continue son œuvre dans votre vie.